La Fontanelle.
Fragment sensible et politique.
Microcosme Murmure d'une cité est une recherche création, un work in progress du groupe artistique Les Allumeurs, de la web radio sensible et politique La Fontanelle et du média L'Insatiable, l'art principe actif. Elle s'est inventée en 2020 dans la cité Émile Dubois à Aubervilliers. Quand la ville est transformée, souvent on détruit. Derrière la démolition d'appartements parfois vétustes, il y a des histoires, des vies, un tissu de rencontres et de cultures, des souvenirs. Rendre audible et visible la vie des habitantes et habitants sur les transformations de leur quartier, comprendre les mécanismes d'aménagement urbain, rencontrer les associations et acteurs locaux, explorer l'histoire des banlieues et de l'immigration, écouter et recueillir des traces de ce qui se vit et se fait, tout cela a constitué la première étape du projet Microcosme qui a donné lieu à une édition. Nous poursuivons cette recherche-création en vous proposant, à partir de mai 2021 et tous les premiers mercredis du mois, un portrait d'habitante ou d'habitant de la cité Émile Dubois.
Je suis né natif d'Aubervilliers, du côté de ma mère. Ils sont à Aubervilliers depuis au moins le Moyen-Âge. Ils faisaient des choux, des navets, des carottes. Moi, j'en ai des souvenirs qu'à partir de mes premières années, parce que je suis né pendant la guerre et du côté de l'Amérique d'Aubervilliers. Après la libération, il y avait beaucoup de maisons qui n'avaient pas d'eau sur l'étage, qui n'avaient que deux pièces cuisine. Enfin bref, nous étions une famille moyenne, mais nous avions que deux pièces pour trois enfants. Donc il s'est construit déjà la cité du Bon Blanc qui est devenue Champillon, et après celle-ci. Donc celle-ci a commencé à être construite en 1955 sur des anciens terrains de culture légumière. Donc il n'y avait pas de construction à démolir ni rien.
Claude est un habitant d'Aubervilliers. Passionné d'histoire, il est un des membres fondateurs de la Société d'histoire et de la vie à Aubervilliers. Avec sa femme Janine, ils ont écrit, entre autres, un ouvrage en plusieurs tomes sur Aubervilliers. Claude a toujours été également intéressé par la photographie et il est à la tête d'archives considérables sur la ville et sur la cité Émile Dubois notamment.
Non mais de savoir qu'ici c'était une zone de périphérie où il n'y avait que des légumes. Comme le Landy ici, avant qu'il y ait des usines sur le Landy, c'était que des champs. Et nous c'était que des champs. Jean d'Aubervilliers qui travaillait aux abattoirs de la Villette.
Ouais.
Dans un bouquin, je raconte qu'il y avait une place de No Man's Land entre la Villette et nous, où il était interdit de se construire, et les cirques, l'hiver, mettaient leurs animaux là. Et il y a des dompteurs de lions qui sont enterrés sur Aubervilliers. Là, les premières années, nous étions dans un trou perdu. Il n'y avait pas de moyens de transport, il n'y avait pas de commerçants. Quand je dis pas de moyen de transport, le bus, le 173, que vous connaissez peut-être maintenant, il passait par le boulevard Édouard Vaillant. Donc on était coupé de tout. Pour faire les courses, heureusement qu'il y avait le 152 sur l'avenue Jean Jaurès, parce qu'il nous amenait à la Courneuve ou sur la Villette. Sans ça, il fallait aller à pied. Il fallait faire un certain nombre de mètres pour aller prendre le bus qui était loin de la cité pour aller sur le centre. Donc il fallait y aller à pied. Il n'y avait rien. Alors, c'était neuf, c'était grand, spacieux. Pour l'époque, c'était le chauffage par le sol. Une grande cité avec beaucoup de verdure.
Quel genre de personnes
C'était surtout des gens qui vivaient pas... Non, il y avait un peu de gens des cités insalubres, mais c'est surtout des gens qui vivaient dans des locaux trop petits. Mais la plupart des gens, c'était des gens qui étaient de... Peut-être pas moyens, mais des couches... Enfin bref, ils n'étaient pas aisés non plus, ni pauvres, mais c'est surtout des gens de relogés pour l'époque. C'était pas de meilleure qualité que là où on était, c'était bien, mais trop petit. Et puis, on habitait au quatrième étage, il n'y avait pas... Enfin, c'était normal, il n'y avait pas d'ascenseur. Le chauffage, il était au charbon. Alors qu'en arrivant sur les 800, c'était le chauffage central par le sol. Donc il y avait déjà ça de moins à faire. Hein. Parce que ce trimballer, quand j'étais gamin sur le 7 allée Louis Fourier, aller chercher le, le charbon à la cave est monté jusqu'au quatrième étage, je n'en suis pas mort. Mais ce que je veux dire, c'est que l'amélioration. La douche, le bain, on n'en connaissait pas avant, à part les bains-douches. Les premières années, c'était un peu homérique. Parce que les gens ne connaissaient pas les lavabos, rien tout ça. Nous, on a découvert la baignoire et tout ça quand on est venu ici. Nous, c'était la rue Louis Fourier qui est près de la mairie. Bon, bah, c'était l'évier de la cuisine. Enfin bref, les commodités, c'était pas, c'est pas du tout pareil, quoi.
De Ville de Cœur, Bamako et Aubervilliers. Elle est partie à 50 ans.
Alors, je suis Monsieur Muller Lucien.
Et moi, Madame Montagnon Catherine.
Nous sommes mariés depuis un an.
On s'est mariés il n'y a pas longtemps.
Pas mal.
Ben, on vit depuis...
Et nous vivons ensemble depuis 45 ans.
46 ans. Peggy va avoir 45 ans. Mmh. Ça fera 46 ans au mois de janvier.
J'ai emménagé, moi, dans... Enfin, c'est ma grand-mère, finalement, qui m'a pas élevé, mais je suis allé chez ma grand-mère à l'âge de 14 ans. Donc, dans les années 65 environ. 65, ma grand-mère habitait avec sa fille dans une des tours de la cité, celle qui est en face du stade. Et donc, j'ai emménagé avec mon frère également. J'avais mon frère qui avait 2 ans de moins. Et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Jusqu'à l'âge de 20 ans, donc j'ai vécu 6 ans déjà dans la cité.
Donc, jusque dans les années 71, 70
avant... Jusqu'à dans les... Oui, exact. Juste avant de partir à l'armée, justement. Et bon, bah, à l'époque, finalement, la cité était... c'était assez... Enfin, moi, je dis ça, j'étais jeune à l'époque. On était, en tant que jeune, beaucoup... On était très sportifs. C'est-à-dire qu'on faisait... On avait une grande place, là, à côté de... Comment ? À côté du... Qu'est-ce qu'il y a à côté, là, je pense, à côté du centre commercial. Mmh. On avait une grande place où on jouait au ballon. Donc tous les jours, après l'école, on jouait au foot. Mais à l'époque, je me rappelle que les dames qui faisaient leurs courses, on s'arrêtait de jouer, et quand elles avaient leur sac, on allait les voir et on les aidait jusque chez elles à amener leur sac. Donc on était... nous, on les respectait, eux, ils nous respectaient. Chose qui a changé aujourd'hui. Moi, je suis né en 51, dans les années 54, et donc le logement était insalubre. On a été chauffé au charbon, hein, parce que je me rappelle des livreurs de charbon à l'époque. Les marches en colimaçon, là, les marches un peu casse-figure, pour dire casse-gueule. Et donc, à mon avis, à l'époque, c'était pour reloger beaucoup de personnes qui habitaient de ce côté-là ou du côté de la rue du Landy.
Oui, je pense que
d'ailleurs,
pour
c'est pour ça,
ça
que 800 appartements, 800 logements...
Moi, je travaillais pas encore à l'époque, ma fille était petite... Et non, ça n'a pas été vraiment... Moi, quand je suis arrivée ici, je ne me plaisais pas. Hein. Pendant des années, je ne me plaisais pas. Mais il y a la seule chance qu'on ait eue, c'est qu'il y a eu une réhabilitation très vite.
Oui, 84.
On est arrivé dans les années 84, donc ils nous ont agrandi l'appartement, fait une terrasse extérieure, un balcon. Donc ça nous a agrémenté un peu, mais le métro est arrivé, parce que quand on est arrivé, je ne sais pas, le métro était déjà là quand on est arrivé.
Oui. Oui, ouais. Il était déjà là.
Parce qu'elle est dans ta grand-mère, à une époque, il n'y avait pas le métro. Hein.
Si, nous aussi. Quand on est arrivé, nous aussi. En 80...
et voilà,
82, il était là, le métro.
Et puis après, moi, je m'y suis faite parce que j'ai trouvé du travail à Paris. J'ai travaillé au printemps très longtemps. Et voilà, c'était pratique, le métro à ma porte, et ainsi de suite. Mais je ne me suis jamais trop plu, moi, dans ce quartier. Jamais trop. Le voisinage, quand on est arrivé, ça allait, il y avait des gens, c'est... D'ailleurs, Madame Lhomme, je la connais depuis ce temps-là, hein. J'avais une autre voisine à côté, on avait des enfants du même âge, ils jouaient ensemble, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me plaisait pas, je peux pas vous dire vraiment, mais je me suis jamais sentie bien dans ce quartier.
Et vous, monsieur ?
Autant je me sens bien dans mon appartement, mais ici, non, je me sens pas...
Non. Moi aussi, comme un... Un coq en pâte, c'est comme ça qu'on dit, non ?
Oui, vous sentez très bien l'eau.
Ah oui, moi, oui, je me suis toujours senti bien. Mais moi, c'est peut-être dû à mon métier, parce que j'étais assureur. Quand on arrivait ici, j'étais assureur. Et c'est vrai que je me suis senti, moi, très bien. À l'époque, j'avais que 6 ans, J'avais des copains tout de suite, je me suis fait des copains. Et l'ascension sociale, comme vous dites, un bel appartement.
Non, et puis je pense aussi à l'époque, quand on est arrivé, les gens faisaient plus attention. C'est-à-dire que c'était familial, les gens se connaissaient, que maintenant plus personne ne se connaît et ne veut se connaître d'ailleurs. Hein. Je peux vous dire que dans mon entrée, même on vous croise, on vous dit même pas bonjour. Hein.
En France, en 2003, 5,8 milliards d'euros, soit 0,36% du PIB, étaient alloués à la politique de la ville. Pourtant, les quartiers populaires et en politique de la ville bénéficient de 30% de services publics en moins que les autres. Pour comparaison, aux Pays-Bas, le budget pour les politiques de la ville s'élève à 8 milliards d'euros, pour 3 fois moins d'habitants qu'en France. Aux Pays-Bas, la politique de la ville est centrée sur la représentation des minorités qui bénéficient d'une visibilité politique et associative. Les étrangers peuvent par exemple voter aux élections locales, ce qui va à l'encontre du modèle assimilationniste et républicain français dans lequel on ne reconnaît pas les particularités des individus.
On est le 27 octobre avec Madame Lhomme.
Oui.
La cité Émile Dubois.
Ah ben nous, quand on arrivait, c'était magnifique. Parce que déjà, premièrement, l'appartement, c'était un château pour nous. On avait 3 pièces. On s'est retrouvés avec 3 chambres, qu'on en avait 2 tout petites. Une grande salle à manger, une grande cuisine. Que nous, notre cuisine, elle était dans la salle à manger. Hein. Ça veut dire que quand on arrivait ici, puis l'entourage... Vous avez vu la verdure qu'on a, les arbres, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis avec la tempête, mais on avait des arbres magnifiques ici. Et bah pour nous, c'était l'idéal. À la place de l'école, il y avait un square. D'ailleurs, je vous montrerai les photos, il y avait un square. Moi, même après, quand je me suis mariée, je venais avec mes enfants ici, dans le square ou sur la place pour que mes enfants puissent jouer. Après, c'est devenu... On parlait de monsieur... C'est vrai qu'il y a eu le Rénaudi, tout ça, on faisait des trucs culturels. Mais en fin de compte, c'était pour... pas pour tout le monde. Moi, je passais mes... Là, c'est sur la place, pareil, avec ma fille qui jouait avec son landau. On avait de la, pour emmener nos enfants. Mmh. Moi, je faisais tout ce que j'avais à faire pour pouvoir qu'ils profitent l'après-midi de ma cité, vous voyez. Ça, c'est le square, là, qui est à la place de l'école, avec les ronds en béton. Mmh. Ma fille qui était assise. Bon, ah, ça, c'est l'école. Ça, c'est là encore l'école. Mmh. Là, c'était avec ma belle-sœur, toujours dans le square. Ben, moi, la banlieue, c'était bon... pas dortoir, mais enfin, c'était reculé. Du jour où on a eu le métro, de toute manière, c'était la catastrophe. Hein. Ça nous a ramené tous les dealers, tous les... Mais on était un petit peu la campagne. Au fur et à mesure, de toute manière, les maraîchers sont partis, ils ont construit.
Donc les années 80.
Voilà. Ils ont commencé à construire, même avant. Hein. Ma fille est née en 74. Même avant. Hein.
Donc les jardins ouvriers...
Parce que ma belle-sœur habitait Bobigny, je me rappelle, on allait la voir, il y avait tous les maraîchers qui avaient, quand on était dans le bus, on voyait tous les maraîchers. Après, ils ont construit un lycée, ils ont construit jusqu'à Bobigny, il n'y avait que ça.
Et mais ils exploitaient comment la terre? Ils avaient des...
Oh bah, c'était des grandes parcelles, oui. Il y avait la ferme qui était à côté, comme la ferme rue Horto. Mm-hmm. Ouais. Et ben moi j'habitais là, j'habitais juste en face quand j'étais gamine.
Vous cherchez votre lait?
Le lait, on allait chercher le fromage, parce que des fois ils faisaient le fromage. On avait même le crémier qui passait avec sa moto et puis un sidecar, vous savez, puis qu'il avait la crème et le fromage blanc en forme de cœur avec la crème dessus.
Les enfants, là, vous les voyez passer, courir, faire n'importe quoi, ils se sauvent en courant, ils font leurs bêtises. Que là, à l'époque, bah, nos enfants jouaient dehors. Hein. Ma fille jouait avec
ici,
eux.
On avait
Madame de Milly avait trois enfants, ils jouaient avec ma fille. Il y avait la salle en bas le soir, on ouvrait la salle, ils
C'était
avaient
quoi,
joué.
Cette salle qu'il
y avait en bas, ils avaient fait une salle lors de la réhabilitation pour les landaus, les vélos et tout ça, et ça n'a jamais servi à ça, en fait, personne n'a mis. Donc c'était une immense salle qui servait à rien. Donc on avait aménagé, mis des tables, des petites
Et après
choses.
Le gardien s'en est servi.
Et les enfants allaient là le soir vers 7, enfin après manger, ils restaient un petit peu. Puis après Paul les appelait à la maison, comme elle avait un beaucoup plus grand appartement que moi, ils pouvaient venir jouer un petit peu. Enfin quand ils n'avaient pas école bien sûr. Et ils jouaient là en bas, ils jouaient aux cartes, ils jouaient à toutes sortes de choses. Là.
C'était
et
avec donc les une initiative des habitants d'avoir aménagé cette salle.
Voilà, absolument.
Quoi dedans ? C'était comment ?
Oh, c'était pas extraordinaire. Il y avait une table, il y avait des petits meubles qu'on
ramenait.
Il y avait des livres, des jeux. Mais elle vous le dira demain, parce que c'est elle qui avait les clés en plus. Et les enfants jouaient là jusqu'à 8h, 9h. Et puis après, pour ne pas ennuyer les gens quand ils étaient en vacances et qu'ils jouaient encore, ils montaient justement chez Paulette, ils jouaient dans son appartement. Mais c'était sympa parce qu'il y avait les autres enfants du quartier qui venaient, certains. Parce qu'ils étaient tous pratiquement un petit peu du même âge. Hein. On est arrivés là, on avait tous des enfants à peu près du même âge. Donc... Non, c'était plus famille quand même.
Puis l'entrée ici, on n'a jamais connu d'entrée aussi calme.
Notre entrée ici,
bâtiment, par rapport au bâtiment, là.
Notre entrée, elle a toujours été assez protégée. Oui, elle a toujours été...
On dirait qu'ils réfléchissent aux gens qui veulent...
Mais voilà, les enfants se connaissaient, ils allaient à l'école ensemble, ils jouaient ensemble. Il y avait ma voisine à l'époque, son fils Anthony, il y avait... Les paringots, là, justement, c'est les gosses, là. Mais tout le monde, c'était sympa.
Et vous n'avez pas pu la garder, cette salle ?
Ben, on n'a pas pu, parce que...
La personne s'en est occupée, hein, faut dire, parce que...
Il y avait des gens un peu jaloux. Je crois qu'il y a eu des problèmes au niveau des locataires qui estimaient pourquoi une personne avait les clés, pourquoi les enfants les avaient.
C'est le gardien qui s'est attribué.
Il y a toujours des problèmes.
C'est
le gardien qui s'est attribué. Voilà, le gardien. Et maintenant, c'est un local pour les femmes de ménage.
Ben, au moins, ça sert à quelque chose.
Il fallait aller à l'école, à l'ancienne école du Montfort, qui est à l'angle du boulevard Édouard Vaillant. Donc il fallait faire un certain... Enfin, c'était pas bien loin. Mais il y avait... Et c'était une école en bois. Alors les premiers temps, c'était surtout des gens... Enfin, on se connaissait pour la plupart par nos familles. Donc on n'a pas eu de peine à s'intégrer, à faire des activités. On se connaissait tous, c'était familial. Maintenant, c'est peut-être une autre façon de vivre familiale. Mais dans l'escalier, on se connaissait tous. Enfin, tous, même de toute la cité. Alors, c'est une cité qui a bouillonné de vie dès les premières années. Avec mon frère, on avait créé, enfin, pas tout seul, parce que c'est un organisme national, les vaillants et vaillantes de Joliot-Curie. On avait jusqu'à 125 enfants que l'on sortait tous les dimanches. Alors, dans des musées, dans des sorties végétales. Et puis, pendant les vacances scolaires, on les emmenait dans les colonies de vacances de la ville. Enfin, pour les jeunes, il y avait plein d'activités. Ce qui était riche pour les enfants... Oui, c'est surtout pour les enfants que c'est important ce qu'on a fait. Parce qu'il n'y avait aucune activité pour les enfants à cette époque-là. Rien. Il y a eu une maison de la jeunesse qui était là où maintenant il y a... Il y a une place avec une place pour le basket. Ben, c'était là où il y avait une maison préfabriquée pour la maison de la jeunesse. Et on a eu souvent des gens qui sont venus comme Armand Gatti, comme des chanteurs. Enfin bref, ça bouillonnait de culture. Il y avait des organismes comme les femmes françaises qui faisaient des fêtes à l'intérieur ou à l'intérieur dans la salle Marcel Cachin, ou alors pour la fête des mères. Sur les espaces libres. Il y avait le Parti communiste qui était très important. C'est vrai qu'on avait le théâtre de la commune. Lui, il est de 1961. Mais avant, il y avait des pièces de théâtre dans la salle des fêtes. Là, j'ai vu une exposition sur le fort d'Aubervilliers, j'ai eu honte. Il n'y a pas d'avis sur l'expo. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non.
Il n'y a pas d'avis. Je leur ai prêté des documents vivants, avec des cantonnières, des cantinières, avec des soldats, enfin, avec des gens. C'est froid, c'est mort. Comment voulez-vous attirer les gens sur quelque chose qui n'a pas d'âme? C'est triste.
Alors au départ, j'ai appris la couture, je devais rentrer petite main chez Dior. Mais maman, quand elle a su qu'on me donnerait 100 francs par mois, elle a préféré que je travaille à l'usine parce que je gagnais 300 francs. Donc j'ai été à l'usine.
Et vous faisiez quoi à l'usine ?
Alors, oh là là, j'en ai fait des usines à Aubervilliers.
Ouais.
À Aubervilliers, j'ai fait la Sierra. Avant, j'ai fait Paul Bonin les biscottes au Pont Blanc. Après, au Pont Blanc, toujours la Sierra. J'ai fait rue de l'Écuyer, j'ai fait Optalix, les transistors. J'ai fait Yum Savon, les tampons et les éponges pour la... qu'ils ont construit un immeuble maintenant à la place de l'usine à Aubervilliers. Aubervilliers, vous sortiez le vendredi. Moi, j'envoyais balader mes chefs, hein. Les directeurs, je les envoyais balader. Je savais que le lundi, j'avais un boulot.
Il y avait beaucoup d'emplois.
Ah, oh là là. Il y avait L'Oréal, il y avait... les transistors, la biscotterie, il y avait le cartonnage. Il y avait plein d'usines avant. Il y avait plein d'usines. Mais après, j'ai changé de travail encore. Je faisais des fins de vie à domicile. Enfin, ça veut dire que je m'occupais de personnes âgées qui allaient mourir. Mm-hmm. La plus que j'ai gardé, c'est 6 ans, qui ne devait vivre qu'un an. Je suis Abila. Mais le plus que j'ai gardé, c'est un mois. Je reste avec eux. Je leur donnais la main jusqu'à la fin. Donc j'en ai eu. Hein. Comme elle disait ma directrice, il faut vous blinder, madame l'homme. Ah, j'ai du mal. Hein. Parce que vous attachez aux gens. C'est pour ça que je suis très avec tout le monde. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Maintenant, je me dis, je ne sais pas qui c'est qui va s'occuper de moi. Mon mari, il travaillait dans les sacs à main. Il faisait des coupeurs en maroquinerie.
D'accord.
Et quand il a été agressé, plus de boulot, plus rien.
Contrairement à maintenant, on ne faisait pas attention aux nationalités ni à rien. Il y a François Asensi qui est devenu député maire... qui là qui habitait sur les 800, c'était en espagnol pour nous, et parce qu'il était espagnol, mais pour nous, il n'y avait pas de... Il n'était pas catalogué.
Oui.
Pas du tout. Moi, j'ai été surpris vers les années 80 qu'on fasse autant de... Même les Algériens, ils étaient employés dans des boulots très pénibles. Mais jusqu'à dans les années 80, il n'y a pas eu de problème, à part l'Algérie. Parce qu'il y a eu... c'était normal qu'ils se battent pour leur indépendance. Mais sans ça, il n'y a jamais eu de remous. Et puis, on sentait des gens qui avaient l'esprit de démocratie et de liberté. Quand les fascistes de l'OS ont voulu venir sur Paris, ils auraient eu de sacrés problèmes. Parce que depuis Le Bourget jusqu'à l'entrée de Paris, il y avait des barrages un peu partout... À la RATP, ils avaient eu leur bus qui était prêt. Enfin bref, on sentait que pour eux, la démocratie et la liberté, c'est essentiel.
Oui.
Mais alors, je suis assez offusqué qu'il y ait Chanel qui soit maintenant sur Aubervilliers. Parce qu'elle faisait partie de l'abwehr nazi pendant la dernière guerre. Alors, on a une ville de résistants, les gens ne savent plus qui était cette ordure. Chanel. Mais moi, ça me choque.
La MULOP, c'est l'association pour un musée du logement populaire. C'est un collectif composé au départ principalement d'enseignants du territoire ou plus largement de quartiers populaires qui a pour ambition de créer un musée pérenne qui raconte l'histoire des quartiers populaires en reprenant un dispositif proche pour que ça parle à tout le monde, du tenement, enfin, voilà, oh là, désolé, pour reprendre un dispositif qu'on a repéré au Tenement Museum de New York et qui consiste en fait à raconter une histoire en partant de la vie des habitants, en fait. Donc nous, pour raconter l'histoire des quartiers populaires, on pense qu'il faut, pour que ça soit audible par tout le monde, pour que ça soit vivant et incarné, on voudrait raconter l'histoire des anciens habitants d'un immeuble. Dans les lieux, en reconstituant les lieux, en reconstituant leur histoire, et à partir de cette entrée qu'on appelle micro-historique, tirée vers des thématiques plus larges. Donc ça, c'est le projet à long terme de la MULOP, et on l'expérimente avec une exposition de préfiguration qui va se dérouler à la cité Émile Dubois à partir d'octobre 2022. Donc le principe, c'est le même, en fait. On a 3 appartements mis à disposition par l'OPH, et dans 2 de ces appartements, parce que le dernier servira d'atelier et de lieu d'accueil, on va reconstituer l'histoire de certaines familles qui ont véritablement habité dans la cité Émile Dubois, et en particulier dans la barre Gros-Perrin, entre les années 50 et les années 2000. Et à partir de l'histoire de ces familles, telle qu'on l'a retrouvée dans les archives, telle qu'on nous l'a racontée, on va aller vers les thématiques du travail et de la santé, des conditions de vie, de la répartition genrée des tâches domestiques, des migrations, des relations sociales, qui sont faites, vous le savez, à la fois de solidarité et de tension. Voilà.
Nous sommes aujourd'hui avec Muriel Cohen du projet AMULOP, historienne, chercheuse post-doctorante sur l'historiographie des migrations et du logement, du territoire et de l'histoire des banlieues. Elle est l'auteure de l'ouvrage « Des familles invisibles, les Algériens de France entre intégration et discrimination » publié en 2020 aux éditions de la Sorbonne. Nous nous sommes rencontrés au départ de l'aventure Microcosme car, à bien des égards, nos projets respectifs avaient des dénominateurs communs: la cité Émile Dubois, son histoire et celle de ses habitantes et habitants. Cet été, nous avons mené de concert des rencontres dans l'espace public, au pied des bars, comme on dit, avec chacun, chacune, nos boîtes à outils.
Pourquoi est-ce qu'on a choisi Aubervilliers et en particulier Émile Dubois ? Je vais vous faire une réponse qui n'est pas hyper satisfaisante, mais... Alors sur la banlieue nord, depuis le départ, le projet, effectivement, c'était vraiment, on avait du mal à le concevoir ailleurs, parce que aujourd'hui la Seine-Saint-Denis, elle est devenue tellement représentative de l'image des quartiers populaires, de la banlieue, voilà, que ça faisait vraiment sens de venir ici, parce qu'elle raconte, hein, vraiment cette histoire, elle incarne cette histoire des quartiers populaires. À travers le mouvement d'urbanisation, d'industrialisation et aussi de désindustrialisation, l'importance des migrations dans le peuplement. Et puis aussi le fait qu'on ait plusieurs à travailler dans les établissements scolaires du territoire. Voilà, pour nous, ça a toujours été clair que c'était en Seine-Saint-Denis qu'on avait envie de développer ce projet. Aubervilliers, en fait, on a commencé à travailler entre Saint-Denis et Aubervilliers. Et c'est Aubervilliers qui nous a proposé, c'est l'OPH d'Aubervilliers, qui nous a proposé de mettre des logements à disposition.
Et c'est pour ça que je vois beaucoup les défauts des constructions actuelles, par contre. Et maintenant, on veut faire pas cher, avec de la main d'œuvre pas chère, et croyez-moi que là, notre cité, elle est toute pourrie. Le fer à béton, il explose de partout. Normalement, il faut qu'il soit 2 à 3 cm à l'intérieur du béton. Là, comme il affleure avec le gel, ça pète. C'est logique. Mais si on veut gagner de l'argent sur le dos des villes ou de... sur les 800, il y a eu des fondations qui se sont écroulées parce que l'eau avait bouffé, c'est peut-être pas poli, le gypse. Donc c'était un terrain bon pour la culture légumière, mais pour construire, fallait... Par contre, là, quand ils ont construit l'école maternelle Angela Davis, les architectes ne se rappelaient plus que dans leurs archives, il y avait ce problème-là. Donc il a fallu recommencer, enfin bref. Ce que je trouve triste dans notre ville et ailleurs, c'est qu'on ne se sert pas de la mémoire écrite ou orale. Et puis comme les villes n'ont pas des élus qui sont capables dans tout, et c'est normal, il y a des fois, ils font des... Mais il n'y a pas que là. Ils croient bien faire, ils sont à côté, ils ne connaissent pas. Et la plupart des élus maintenant ne sont plus avec les gens. Nous, dans la cité, on avait deux élus. S'il y avait des problèmes, on les voyait directement. Et puis après Émile Dubois, il n'y a plus de contact humain. Le maire, il serrait des mains, mais c'était tout ce qu'il faisait. Il ne s'occupait pas de son propre parti. J'ai été communiste pendant 30 ans, jusqu'en 1979. Donc ça fait un bac que j'y suis pas. Mais quand j'y étais, les décisions qui étaient prises dans les cellules et dans les sections... Le maire n'en tenait pas compte, ni de son bureau municipal. Nous, quand a été construite cette cité, on a tous, pas hurlé, mais on a dit que c'était pas possible, c'était une concentration trop dense. Il a une promiscuité. Là, ici, c'est une cité où il n'aurait jamais dû y avoir, dès le départ, de familles nombreuses. C'est pas fait pour... Quand vous avez un F3 où il y a 10 à 12 personnes, la concentration est déjà dure entre eux. Moi j'en ai vu un... Enfin, on s'est battu pour notre cité, là, au bureau des HLM, il y a un gars qui est venu, ah ben mon ballon d'eau chaude, il est toujours froid. Il était prévu pour 6 personnes, ils étaient 12. Donc c'est pour montrer que notre cité n'est pas faite, mais elle était faite pour les artistes peintres et les vieux au rez-de-chaussée. Ça, c'était très bien. Mais les artistes, ils sont partis parce qu'il y avait des gens qui leur piquaient tout. Et c'était bien, hein. Il y avait tous les ans une promenade dans les différents ateliers. C'était super bien. Et pour les vieux, c'était super bien.
Oui, bah, écoutez, au début, c'était particulier. Parce que notre entrée ici a toujours été une entrée... mon appartement, d'ailleurs, je crois que j'ai le seul appartement qui n'est pas le même que les autres. Ils m'ont fait une grande salle de bain, alors que les autres ont des petites salles de bain, toilettes à part... C'est une sorte d'appartement test. Et lorsqu'ils ont refait cette entrée-là, ils ont commencé par celle-ci, en faisant une entrée test, en demandant aux gens ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils aiment. Non, commence pas, Mephisto. Enlève-le, Lucien. Enlève-le, parce qu'il va jouer avec toi.
Mephisto.
Il faisait une entrée test, donc on demandait aux gens ce qu'ils souhaitaient. Moi, je voulais une plus grande cuisine, parce que ma cuisine était toute petite. Elle a doublé de volume par l'extérieur. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'était avoir une grande entrée, parce qu'on n'a pas d'entrée. Et donc, je voulais qu'ils me ferment là et qu'ils m'agrandissent par là.
Ah oui, par là.
Et
manque de peau.
En fait, ils devaient tout me faire ça. Enfin, on avait vu avec l'architecte, on en parlait régulièrement. Et en fait, c'est mes voisins qui ont eu ce que je voulais et moi, j'ai eu autre chose. Mais bon, c'est pas grave.
Oui, puis une chambre en plus, ça, c'est normal.
Et on demandait ce qu'on voulait, en fait, parce que comme c'était test, c'est avéré après que.
On a été gâtés au niveau balcon.
Le balcon et la terrasse. On a été gâtés là. Ils ont fait que ici, quoi, en fait. Les terrasses, normalement, tout le monde devait avoir une extension.
On s'est battu. Oui, aussi. Là, non, mais c'était un plan de réhabilitation qui voulait se faire globalement sur les 800 et la Malabrée. On s'est battu parce que avec les architectes, parce que nous sommes amis depuis qu'ils sont là. Parce que ce plan... C'était la boucherie du quartier. Ils créaient des rues partout. Enfin bref, c'était un saccage monstre. C'était pas une réhabilitation, c'était une destruction programmée. Alors on s'est battu même contre la ville, parce qu'au départ, ils étaient pour. Mais nous, on voulait quand même un petit noyau de... Enfin, maintenant, je vieillis, de... Et battant. Mais ça a été très dur. Par contre, on a donné les noms des 5 allées avec des noms de résistants de la commune. 4 qui sont morts fusillés au Mont-Valérien et le 5e dans le Paris 15e. Enfin, après, nous sommes d'une ville où il y a eu beaucoup de résistants, beaucoup de morts. Ou alors, pour en revenir à l'immigration, moi, il a fallu après 80 que je découvre le racisme viscéral. Pour chez nous qui s'appelait en IA ou on en a. On a moi, les gens ne savent même pas que Fat, c'est un vieux nom d'origine franque. Qui est avant le Gaulois, mais je m'en fous royalement, mais qu'il y ait des noms dans I en A ou en O, ça ne me dérange pas. Bon. Si les gens sont bien, parce qu'il y a, au champ, il y a autant de truands de blancs qu'il y a de n'importe quelle couleur. Il n'y a pas de.
Moi, je vais vous dire, j'ai 139 neveux et nièces. J'ai mon beau-frère qui est algérien, j'ai un neveu qui est malien, j'ai un neveu qui est italien, j'ai une nièce. Une belle-sœur qui est italienne, j'ai l'espagnol, mon gendre est portugais. On est une mixité, nous, dans notre famille. Bah, moi, je peux dire que je représente toute la France. Hein. Avant, moi, les gens, ils viennent, ils cognent à ma porte, je les fais rentrer. Hein, y a jamais... Bon, avec le Covid, je le fais un peu moins. Mais bon, voilà, quand même. Il venait facilement, tiens, t'as un oignon, est-ce que tu peux, t'as de l'ail, ou tiens, j'ai besoin d'un tube de concentré de tomates, que des trucs comme ça. Quand j'habitais au 202, j'avais toujours quelqu'un qui venait cogner à ma porte, hein. Même encore maintenant, mais bon, c'est moi, et c'est ça qui manque. Je vois la dame congolaise au-dessus, on s'entend très bien, elle est adorable, tout. Vous avez vu Papa Moussa, c'est un monsieur sénégalais. Comme on a eu des problèmes avec les clés des caves, j'ai dit au gardien, donnez-moi la clé de Papa Moussa, j'y donnerai. C'est un monsieur qui... Son frère est médecin au Sénégal et il s'entendrait très bien avec mon mari. Mon mari l'a emmené visiter Paris. Puis la cité, parce qu'il ne connaissait pas. Parce que ses neveux l'avaient emmené au tramway, mais le tramway, il dit, tiens, il y a le TGV qui passe. Il dit, non, c'est pas le TGV, c'est le tramway. Donc, on a toujours eu... Et puis, c'est un homme, quand j'ai fait ma crise cardiaque, j'étais aux soins intensifs, qui est venu et qui pleurait. C'est touchant, vous voyez. Mais ça, on peut dire que c'est la famille. C'est la famille.
Ce qui s'est passé, c'est le changement de mentalité des jeunes, la génération. Ils respectent. Il y a plus beaucoup. Enfin, pour moi, ça va parce que moi, ils me disent encore bonjour. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ne respectent plus. Enfin, d'autres jeunes ou moins jeunes, hein, qui ne respectent plus les femmes âgées, par exemple.
Enfin, ce qu'il y avait de bien, c'est qu'on se connaissait à peu près tous, il y avait une fraternité. Une fois, je me suis trouvé sur la rue Daniel Casanova avec un groupe de jeunes qu'on ne se connaissait pas. On a été pris en rafle par la police. Les maires sont venus nous chercher au commissariat. Mais vraiment, quand je dis les maires, ils avaient fait appel à tout le monde. Hein. Une autre fois, en 61, et ça c'est le truc qui m'a le plus marqué, je connaissais le monde de la résistance, parce que ma femme et moi, nous sommes de milliers de résistants et résistants déportés, on connaissait en gros.
Alors vous disiez qu'à l'époque, il y avait beaucoup de choses initiées par la mairie, beaucoup de...
Oui, d'activités.
Est-ce que vous vous rappelez de est-ce que vous avez souvenir?
Moi oui, parce que je suis sportif.
Précisément, en fait.
Oui, un ancien sportif. Et même quand j'étais jeune, je parle des colonies, moi. Les colonies, j'étais tout le temps... J'étais le premier à vouloir aller en colonie. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça... Je ne me renseigne pas, je ne sais même pas si ça existe encore. Puisque ma fille, elle m'en parle à la Courneuve de temps en temps. Mais je ne sais pas si ça existe encore. Par contre, moi, j'étais amateur de football. Donc, 3 fois par semaine, j'étais sur le terrain. J'avais juste à escalader la grille... Donc, 3 fois par semaine, j'étais sur le terrain.
Mais vous voyez, il y avait des choses un peu comme font maintenant la fête des voisins. Il y avait beaucoup de... Non, voilà, c'est un petit peu tristounet, le quartier, maintenant.
Mais vous disiez tout à l'heure que pourtant, depuis que vous étiez à la retraite, finalement...
Oui, mais moi, je vois les gens de mon âge, voilà, je vois les dames de mon âge, quoi, qui... On se rencontre, puisque le matin, je sors, c'est ces dames-là que je rencontre, mais toutes les autres personnes avec leurs enfants, tout ça...
Vous participez à des associations de quartier ?
Non.
Tu devrais ?
Non.
Ici,
non.
Vous avez entendu parler de l'aquarium ? L'association des femmes.
Non. Ici, non, je ne fais rien du tout ici.
Mais vous pensez que ça faciliterait les rencontres, par exemple,
bien sûr.
Un lieu, je sais pas moi, un café un peu sympa.
Moi, je pense, ça pourrait être sympathique. Hein.
Tu devrais y aller, Cathy. Ouais.
Donc, j'ai fait en sorte que mon appartement, mon balcon, tous les gens passent et me disent « Oh, il est beau ». Mais non, je dis « C'est juste parce que je me sens bien, j'aime les fleurs, j'aime bien... » C'est pas pour... Mon mari, des fois, me dit « Oh, tu fais ça pour épater les gens ». Non, j'ai pas de personne.
Non,
je fais ça parce que je me sens bien dans mes fleurs. Maintenant que j'ai ma terrasse, j'ai mes fleurs. J'ai l'impression ici d'être dans une maison. Parce que lorsque vous vous levez le matin... En été, que vous entendez les petits oiseaux, vous avez la verdure. Franchement, je me sens très bien. Je me sens bien. Et mon appartement, je le fais à mon image. Et vraiment, je m'y sens bien.
Je fais tous les masques pour mes voisins. J'en ai donné à tout le monde dans la tour, à tout le monde, aux enfants, à tout le monde. Parce que je me disais, quand c'est arrivé le premier
confinement,
je me suis dit, il faut qu'on se protège, parce que quand même, on est des voisins, les enfants, tout. Bon, je le fais pas. D'abord, j'ai toujours dit, je fais des masques. Plusieurs personnes sont venues cogner à ma porte pour me demander de les acheter, parce qu'au début, on ne trouvait pas les masques jetables. Et j'ai dit non, moi je ne m'en fiche pas sur le quand il arrive un problème comme ça. On s'entraide. Mm-hmm. Moi je les donne, je les vends pas. Et pourtant je vous jure que le tissu ça coûte cher. J'ai encore été au marché Saint-Pierre la semaine dernière. Mais voilà quoi. Soit j'irai au cimetière d'Aubervilliers, parce que j'ai ma place avec mon mari. Soit j'irai, j'ai envie de partir. Et pourtant, je vous jure, je l'aimais ma cité. Franchement, je l'aimais. Mais plus ça va, plus elle se dégrade, plus il y a des jeunes qui ont... Je me fais insulter. Je leur demande gentiment à 2h du matin de ne pas faire de bruit. Vous vous faites insulter. Vous... C'est pas la cité que j'aime. Moi, j'ai envie de partir. Ça se délabre. Vous vous rendez compte, ça a été construit pour 30 ans. 30 ans, ça fait 60 ans, plus de 60 ans que ça a été construit. On nous aurait fait, comme dans Paris, du temps d'Haussmann, des appartements qui tenaient le coup. Ici, vous mettez un clou dans un mur, tout tombe. Ça s'effrite. Donc, automatiquement, l'isolation est mal faite. Moi, j'ai mon mur là-bas qui est tout noir parce qu'on sent l'air. Mon fils a ramené un appareil pour voir. Il me dit « Maman, t'es pas isolée ». Ça a besoin d'être isolé, mais proprement. Donc, les coûts de l'isolement, les coûts de la rénovation, ça coûtera 10 fois plus cher que de reconstruire.
Thank you.